Mais Gilles Moinet, pardon.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous faire du bien, vous rassurer sur les sujets de santé qui vous préoccupent. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré aux problèmes de sommeil des enfants et des adolescents. Quels sont les principaux troubles nocturnes qui perturbent la santé des jeunes? Bien sûr, nous parlerons de l'impact néfaste des écrans sur le sommeil des enfants. Mais surtout, dans cette émission, on vous donnera des conseils, des astuces pour que les plus jeunes retrouvent un bon rythme biologique, un sommeil paisible et réparateur, ce qui gage aussi, vous le verrez, de bonnes performances à l'école. Alors pour nous éclairer sur ce sujet, notre invité, ce sera le docteur Michel Lecendreux, pédopsychiatre et coordonnateur du Centre pédiatrique de pathologie du sommeil à l'hôpital Robert Debré à Paris. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, nous ferons un focus sur la cuisine naturelle pour bébés. C'est le titre du livre d'Angèle Ferremag qui sera justement en ligne avec nous. Elle est cuisinière et naturopathe et nous donnera les clés pour réussir la diversification alimentaire avec des petits plats sains et gourmands. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous dira ce que les enfants adultes peuvent faire lorsque leurs parents les impliquent un peu trop dans leur vie de couple.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est Le Vrai Faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par cette question de Marie, on l'écoute.
Alors, je voudrais poser une question à Mélanie et Jimmy. Je voudrais savoir qu'est-ce que la maladie, la gammapathie IgM-kappa, et quelles sont les alertes de cette maladie. Merci, à bientôt.
Alors pour vous répondre Marie, précisément, on a posé votre question au professeur Jean-Hugues Dalle qu'on avait reçu déjà dans cette émission. Il est médecin hématologue à l'hôpital Robert Debré à Paris.
Les gammaglobulines, ce sont des anticorps qui sont très nombreux, très variés, très divers, dirigés contre les agents infectieux. De temps en temps, ces gammaglobulines qui sont produites par des cellules qu'on appelle les plasmocytes, une catégorie de globules blancs, eh bien, il va y avoir un seul clone de plasmocyte qui va se mettre à proliférer et à produire un seul type de gamma-globuline. Cette gammapathie monoclonale peut être soit parfaitement bénigne, c'est assez rare mais cela arrive, soit au contraire être liée à une prolifération anormale de ces fameux plasmocytes et à ce moment-là, ça peut correspondre à certaines maladies telles que le myélome et plus rarement d'autres maladies telles que la maladie dite de Waldenström. Et ça demande évidemment des explorations supplémentaires en milieu spécialisé chez un hématologue. Ça peut parfois déclencher des douleurs osseuses parce qu'en fait, ces cellules qui prolifèrent beaucoup, les plasmocytes, sont volontiers dans la moelle osseuse hématopoïétique et ça crée comme une tension et donner des douleurs. Et puis comme toutes les maladies de cette famille-là, ça peut donner une grande fatigue.
C'était donc le professeur Dalle au micro de Benjamin Lévesque. À présent, Jimmy, on va prendre une autre question d'auditeur comme tous les jours. Elle est pour vous, c'est Anaïs de Roubaix. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous téléphone, j'aimerais me faire poser un stérilet parce que j'en ai marre en fait de prendre la pilule que j'oublie parfois. Et j'ai cru comprendre qu'il y en avait deux sortes, un au cuivre et un aux hormones. Lequel est le mieux selon vous, docteur Jimmy Mohamed?
Eh bien Jimmy, lequel est le mieux selon vous? Alors non Jimmy, très précisément, il y a deux types effectivement de DIU. Donc DIU, ça veut dire dispositif intra-utérin, voilà, donc de stérilet. Les femmes ont le choix, c'est quoi la différence finalement? On comprend à peu près dans le nom, mais c'est quoi la différence de fonctionnement?
Alors tout d'abord, il faut comprendre qu'un stérilet, c'est un dispositif de contraception qui est en forme de T, qui va faire environ 3 cm et qui va se terminer par un petit fil pour pouvoir le retirer le jour où on veut l'enlever. Vous avez deux types de stérilets, un stérilet au cuivre et un aux hormones. Celui au cuivre va rendre les spermatozoïdes inactifs, celui aux hormones va avoir une double action, on va vous délivrer de la progestérone à petite dose de façon régulière, ça va avoir un effet de contraception, ça va épaissir les sécrétions au niveau du col qui vont empêcher les spermatozoïdes d'arriver, et puis ça va avoir aussi un impact sur le cycle hormonal. Raison pour laquelle on peut choisir l'un ou l'autre en fonction de ses désirs.
Alors justement, comment Anaïs peut choisir? Enfin, ça dépend vraiment au cas par cas.
C'est quoi, les règles assez simples. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stérilet aux hormones délivre des hormones. Et donc, si vous avez des contre-indications à l'hormone, bon, si jamais vous avez
déjà,
fait des phlébites...
C'est plutôt cuivre.
Et puis ensuite, vous pouvez ne pas avoir envie d'hormones. Dans ces cas-là, vous allez prendre celui en cuivre. Les deux sont aussi efficaces.
Ça, c'est important.
Les deux ont le même niveau de performance. En revanche, celui en cuivre va avoir des effets secondaires, des effets indésirables.
Il peut faire saigner un peu abondamment.
Exactement, des saignements un peu plus importants, des règles irrégulières, parfois douloureuses. Alors qu'à l'inverse, celui aux hormones, peut suspendre les règles pendant un bon moment, donc on n'a quasiment plus de règles, mais on peut avoir les effets secondaires des hormones, c'est-à-dire de l'acné, une prise de poids, et donc c'est à discuter au cas par cas.
D'accord. Par contre, pour ce qui est de la pose, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas un qui est plus douloureux que l'autre, on est d'accord. C'est la même chose.
Oui, ce n'est pas tout à fait une partie de plaisir quand on pose pour la première fois, notamment lorsqu'on n'a pas eu d'enfant, le col peut être fermé, et il existe deux types de stérilets au cuivre, un tout petit, un short, un court, et un de taille standard. Et donc, effectivement, posage au cabinet généraliste, sage-femme ou gynécologue, sans anesthésie ni quoi que ce soit. Et puis, on repart, le stérilet.
L'un ou l'autre, on les garde combien de temps ?
Entre 3 et 5 ans. Et le stérilet peut être utilisé en contraception d'urgence dans les 5 jours qui suivent un rapport à risque. Ça peut être utilisé comme la pilule du lendemain.
Très bien, bonne précision. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Anaïs qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité pour le dossier du jour, c'est le docteur Michel Lecendreux, avec qui nous allons faire un point cet après-midi sur les différents problèmes de sommeil qui touchent le plus fréquemment les enfants et les ados. On vous donnera bien sûr de nombreux conseils si vous êtes concernés, alors n'hésitez pas et restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour, c'est vous, docteur Michel Lecendreux. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, bonjour à tous.
Vous êtes pédopsychiatre et coordonnateur du Centre pédiatrique des pathologies du sommeil à l'hôpital Robert Debré à Paris. Avec vous, on va s'attaquer aux problèmes de sommeil des enfants et des adolescents. Aujourd'hui, vous étiez venu la saison passée nous parler des tout petits bébés. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux enfants un petit peu plus grands, docteur Lecendreux. D'abord, de façon générale, est-ce que pour un enfant de, on va dire, je sais pas, 5-10 ans, on va parler d'abord des un peu plus jeunes, combien d'heures de sommeil sont vraiment indispensables ?
Voilà, alors, il y a des recommandations internationales. On sait qu'entre 9h et 11h pour les enfants de cette tranche d'âge, c'est très important de les connaître. Après, chaque enfant a sa propre variabilité autour de ces recommandations. Donc on ne doit pas s'inquiéter si ce n'est pas exactement ça, mais ça donne une idée très importante.
Et puis, il n'y a pas simplement le nombre d'heures qu'ils vont dormir, mais la façon dont ils vont dormir, leur qualité de sommeil, à quelle heure ils vont se lever, à quelle heure ils vont se coucher, est-ce qu'ils sont du matin ou du soir. Le nombre d'heures de sommeil n'est pas suffisant pour
Absolument.
Définir une qualité de sommeil.
Ce qu'on appelle le chronotype, savoir si l'enfant est plutôt du soir, plutôt du matin. Souvent, c'est familial. Il peut y avoir des éléments familiaux qui nous aident à déterminer ça. Et un enfant qui dort bien, c'est un enfant qui s'endort bien et qui se réveille bien le matin.
Mmh. Est-ce que vous trouvez que les enfants d'aujourd'hui dorment moins bien, parce qu'on en entend parler de temps en temps, mais que nos grands-parents quand ils étaient enfants, ou nos parents, ou même nous ?
Ben, on avait assez peu d'études à cette époque-là, mais on peut penser que oui, puisque les enfants ont beaucoup de pression, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit sociale, les réseaux, beaucoup de stimuli autour d'eux, dans les chambres, les écrans, etc. Donc oui, le sommeil est quand même pris beaucoup comme à défaut, et a tendance à être un petit peu le parent pauvre.
Et justement, est-ce que les parents, à l'inverse, doivent être très stricts, mettre des règles claires, ou on doit être un peu plus souple en cette période ? Comment est-ce qu'on fixe une limite ?
La limite, elle doit être intelligente, et je dois dire qu'il y a un terme qui est l'orthosomnie.
Ça veut dire quoi ?
On parle d'autorexie quand on est trop rigide sur des limites alimentaires.
Ah oui, trop rigide avec le sommeil, c'est ça.
Trop rigide avec le sommeil, ça ne marche pas. Il faut accompagner l'enfant, déterminer avec lui quel est son bon rythme. Une fois qu'on connaît ce rythme, qu'on a pu l'observer pendant qu'il y avait moins de contraintes scolaires, là, on peut lui proposer un cadre qui va être efficace.
Puisqu'on parle des enfants un peu plus jeunes, on parlera des adolescents ensuite, mais on pense aussi, quand on dit sommeil, on pense aussi à la sieste. Jusqu'à quel âge la sieste, elle est importante ? Et vous dites, je crois qu'il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Attention, cette sieste. Hein.
Alors la sieste, on l'a vu la dernière fois avec les petits, c'est jusqu'à 3-4 ans. Il y a des enfants qui peuvent dormir au-delà, vers 5 ans. Mmh. Et généralement, ce qui peut mettre la puce à l'oreille, j'allais dire, c'est des enfants qui ne dormaient plus et qui se remettent à dormir dans
la journée.
Ça,
c'est pas très bon.
C'est pas forcément très bon, il faut les examiner, il faut savoir ce qui se passe.
Mmh. Et à l'inverse, qu'est-ce qui est bien dans une sieste chez un enfant ? Parce qu'on comprend, ils vont se reposer, mais est-ce que ça a des pouvoirs un peu extraordinaires sur le cerveau ? J'aime pas trop ce terme de mot, mais malgré tout, est-ce que c'est bien ? Est-ce que la sieste est bénéfique chez les petits ?
Ah, bien sûr, Jimmy. Il faut faire la sieste, il faut encourager les siestes, surtout chez les enfants qui n'ont pas un temps de sommeil suffisant. Mais il faut savoir qu'une sieste, même si elle est bien placée, même si elle est bien faite...
Bien placée, c'est début d'après-midi. Hein,
plutôt
pas,
début d'après-midi,
pas trop tard,
voilà, pas trop tard dans la journée. Va pas compenser un manque de sommeil de nuit.
Mmh. Vous avez dit qu'un enfant faisait naturellement les siestes jusqu'à 3-4 ans. Et donc, vous disiez par contre, attention, un enfant de 7-8 ans qui se remet à avoir besoin de faire des siestes, bon, le week-end, hein, parce qu'à l'école, c'est pas possible. Est-ce que ça, c'est ça ce qu'on appelle la narcolepsie ?
Oui, la narcolepsie, c'est une maladie qui est très importante à connaître, puisque ce sont des enfants 1 pour 20 000, une maladie rare. Mais on a un centre de référence, qui est d'ailleurs en France coordonné par le professeur Dauvillier à Montpellier, qui s'occupe de cette pathologie. Ça peut toucher les enfants, ils n'arrivent plus à maintenir leur réveil, ils s'endorment en toute occasion. Mais attention, la cause la plus fréquente de somnolence, c'est l'insuffisance de sommeil.
Et justement, est-ce que l'insuffisance de sommeil, on peut la rattraper le week-end, un enfant qui dort mal en semaine? Est-ce qu'il peut essayer de gratter quelques heures, comme on dit le samedi dimanche?
On peut faire la grasse mat, on peut gratter
un petit
peu. Nous, on
aime ça, alors on ne va pas les enfants.
Mais regardez, si un enfant doit dormir 9 heures, qu'il ne dort que 8, eh bien, au bout de la semaine, il aura perdu 7 heures de sommeil, pratiquement une nuit entière.
C'est beaucoup.
Il n'arrivera pas à la récupérer le week-end.
D'accord. Le week-end, donc, on ne peut pas tout rattraper, mais vous avez une règle, justement, je crois, pour le week-end. C'est, en tout cas, il ne faut pas trop dérégler les enfants par rapport à la semaine, pas plus de 2 heures d'écart. Expliquez-nous à peu près.
Oui, on évite que l'enfant se décale de plus de 2 heures. Donc, pas de coucher de plus de 2 heures.
S'il se couche à 8 heures tous les soirs, 9 heures
voilà,
tous les soirs,
pas,
admettons.
Pas au-delà de 22 heures. Et pas de réveil tardif le matin, pas au-delà de 10 heures si l'heure de lever est 8 heures, par exemple. Pour ne pas encourager et favoriser ce qu'on
vous
appelle
êtes assez souple,
le retard
quand même, hein.
De phase.
Ouais, c'est souple, hein. c'est pas l'orthosomnie, justement.
Non, il ne faut pas être orthosomniaque.
Ouais. En quelques mots, quelles sont les vertus du sommeil sur le cerveau? En quoi c'est bénéfique de dormir, notamment la nuit?
C'est indispensable, surtout sur un cerveau en développement chez les enfants. Parce que
pardon, plus oh, que pour
plus
nous.
Que, ouais. Encore plus que pour nous, puisqu'on va favoriser les apprentissages, la mémorisation immédiate et aussi consolider la mémoire à long terme. L'attention, bien sûr, on parle des enfants avec des déficits d'attention, mais il faut absolument que le cerveau puisse se reposer. On sait qu'il y a des, pendant le sommeil, ce qu'on appelle l'élagage synaptique, donc vraiment une plasticité cérébrale qui se met en place.
Et la croissance aussi, hein, le sommeil des enfants,
la croissance,
c'est important.
Alors c'est évident que c'est pendant le sommeil qu'est sécrétée l'hormone de croissance en premier tiers de nuit.
Donc un enfant qui ne dort pas bien, c'est un enfant qui ne grandit pas bien.
Un enfant qui ne dort pas bien, ne grandit pas bien et a beaucoup de difficultés métaboliques, cognitives et aussi psychologiques.
Docteur Le Sandre, on va poursuivre cet entretien passionnant dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans son rendez-vous, nous allons continuer ce décryptage sur les troubles du sommeil de l'enfant et nous allons en détailler quelques-uns. Comment régler les problèmes d'endormissement? Un enfant qui ronfle, faut-il systématiquement s'en préoccuper? On va tout vous expliquer. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé-Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus, ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Alors, notre invité en studio avec nous, c'est le docteur Michel Le Sandre. Vous êtes pédopsychiatre et coordonnateur du Centre pédiatrique des pathologies du sommeil à l'hôpital Robert-Debré à Paris. Et on parle des enfants et des adolescents, mais d'abord les enfants, on va dire de 5 à 10 ans. C'est quoi les problèmes les plus fréquents de sommeil? Alors, je ne sais pas si on parle de troubles, dans cette tranche d'âge en tout cas.
Ben, on l'a vu un petit peu, Mélanie, c'est d'abord l'insuffisance de sommeil, donc s'assurer que l'enfant dort suffisamment, que son sommeil est d'assez bonne qualité, pas trop d'éveil dans la nuit, pas de lever intempestif. Ensuite, on sait que les apnées du sommeil, c'est les enfants ronfleurs qui ronflent de façon répétée, sont aussi des candidats à avoir des troubles du sommeil.
5% quand même des enfants, parce qu'on pense aux vieux monsieur, entre guillemets, un peu bedonnant.
Oui, souvent
mais non,
les mamans sont très fières,
aussi.
Elles disent « Oh là là, il ronfle comme son père et, et c'est vraiment très très bien ». Mais non, il faut s'en inquiéter, au contraire.
D'accord. Et justement, quand est-ce qu'on s'inquiète quand un enfant ronfle? À quel moment on se dit
oui,
il y a un problème?
Parce qu'il y a ronflé, puis il y a ronflotté, c'est mignon, parfois des petits « comme ça.
C'est un ronflement qui peut s'accompagner aussi de pauses respiratoires.
On l'entend bien à l'oreille, hein, les parents.
On l'entend bien à l'oreille, il est permanent, il est toute la nuit. L'enfant peut aussi avoir une salivation. Il y a une petite tache sur l'oreiller tous les matins. Il faut s'en inquiéter et consulter son médecin traitant, l'ORL ou alors un spécialiste du sommeil.
D'accord, on a compris l'importance de consulter dans ce contexte. Qu'est-ce qui provoque les problèmes de sommeil, les autres hein, les problèmes d'endormissement, les levées nocturnes, les insomnies peut-être chez les
oui,
enfants?
Oui, bien sûr. Alors c'est beaucoup ce qu'a appris l'enfant de l'endormissement. On l'a vu chez les petits, mais là on est dans un continuum avec les plus grands. Si l'enfant sait utiliser son lit, s'il sait utiliser sa chambre, il va s'endormir beaucoup plus facilement que s'il n'y a pas eu cet apprentissage qui a été créé. Donc attention aux stimuli excessifs dans la chambre, les écrans.
Bien sûr.
Justement, quel est le rôle des écrans dans les troubles du sommeil chez les petits, chez les enfants? À une époque, c'était un peu vanté comme un outil pédagogique intéressant.
Ça l'est toujours, je pense. Dans le sommeil, je ne sais pas.
Mais il y a des recommandations des associations de pédiatrie maintenant sur l'utilisation des écrans à partir de l'âge de 18 mois. Donc il faut savoir que pour les enfants de l'âge, de la tranche d'âge qui nous intéresse, il faudrait absolument éviter tous les écrans une heure avant le coucher.
Comme pour nous aussi, hein, ça, c'est, je crois.
Et pour nous aussi, bien entendu. Mais les écrans, ça crée une lumière bleue qui ne favorise pas le sommeil.
Vous disiez un enfant qui utilise mal son lit, c'est-à-dire parce qu'un lit, ça sert à dormir, a priori, mais il peut faire quoi d'autre dedans qui n'est pas bon ?
C'est que on fait tous des choses dans notre lit qu'on ne devrait pas forcément faire, c'est-à-dire faire ses devoirs, de la lecture prolongée.
Lire dans le lit, ce n'est pas si bon que ça. Si on lit des heures, ce n'est pas bien.
Si on lit pour s'endormir, ça va très bien, mais si vous lisez pour lire, vous devez le faire ailleurs.
Sur le canapé, c'est mieux alors ?
Oui, beaucoup mieux.
D'accord, je ne savais pas.
Est-ce que le fait de dormir avec son petit frère ou sa grande sœur, est-ce que ça peut être source d'un sommeil plus difficile, plus compliqué ?
C'est, je crois, la notion du contrôle parental, c'est-à-dire qu'il faut que chaque enfant dorme à son rythme et à son compte. J'ai vu l'autre jour un enfant qui, de 10 ans qui réveillait sa sœur de 7 pour jouer aux jeux vidéo avec le portable du père qui lui avait dérobé pendant
mais
son
non,
sommeil.
Oh, il y en a qui sont astucieux quand même. Alors là, comment vous réglez ça, docteur ?
Là, il faut en parler à la famille.
Je crois que c'est clair. Oui, d'accord. Mais bon, parfois, on n'a pas le choix. Des enfants d'âge différent doivent dormir ensemble parce qu'on n'a pas la place.
Et si on n'a pas le choix, il faut respecter le rythme de chacun et faire attention que l'enfant, un enfant donné, ne soit pas l'objet contraphobique de l'autre. Si l'enfant a du mal à dormir seul, il ne doit pas exiger que son frère ou sa sœur vienne dormir avec lui.
Il y en a comme ça, c'est vrai, des histoires de petits frangins comme ça qui dorment ensemble du coup, parce qu'il y en a un qui a peur. Il y a aussi l'environnement qui compte beaucoup, je crois, sur la qualité du sommeil. Les tensions, par exemple, au sein de la famille, ça peut avoir un impact. Hein.
Les tensions familiales, on le voit en ce moment avec le Covid, avec d'autres pathologies.
Vous voyez déjà en consultation l'effet Covid sur
le
sommeil.
Oui, j'ai vu des enfants qui étaient très anxieux que leurs parents aient pu avoir la maladie, que leurs parents soient très malades du Covid, et qui donc se réveillent la nuit, ont des réveils émotionnels, anxieux. Et là, il faut les accompagner dans des thérapies qui réduisent le stress.
Et justement, est-ce qu'un enfant stressé, c'est un enfant qui peut grincer des dents ou le stress n'a pas beaucoup de rapport avec ce qu'on peut, cette pathologie ?
Les grincements de dents, oui, c'est le bruxisme.
C'est un trouble du sommeil, ça.
Oui, bien sûr, ça fait partie des parasomnies. Ce n'est pas vraiment le stress qui l'occasionne, mais il faut le régler avec l'orthodontiste ou le dentiste pour pas qu'il y ait des lésions des dents. Parce que les frottements peuvent être très très pénalisants sur la dentition.
Docteur, un enfant qui parle la nuit, ça peut nous faire sourire comme ça, mais est-ce que c'est grave ?
Pas du tout, on parle tous la nuit.
Nous aussi, on parle parfois, mais les enfants plus, j'ai l'impression.
Voilà, encore une autre parasomnie qu'on appelle la somniloquie, on parle tous. S'ils parlent anglais ou dans une autre langue, c'est plutôt bon signe.
C'est encore mieux, d'accord, non, mais ça n'est pas le cas. Mais...
autre chose étrange du sommeil, pour les parents, le somnambulisme, est-ce que c'est fréquent ? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter ?
Somnambulisme, c'est très fréquent dans la tranche d'âge 5-12 ans. C'est très lié au sommeil profond qui est abondant dans cette tranche d'âge. Donc ce sont des éveils qui ne sont pas complets en premier tiers de nuit. Il faut s'en inquiéter si l'enfant se met en danger et surtout lorsqu'il n'est pas dans son environnement, s'il part en vacances dans un endroit à risque. Il faut vraiment le signaler à l'entourage.
Sinon, s'il n'y a pas de danger particulier, c'est juste
sinon,
qu'il se lève un peu, il fait un tour de son lit,
on le ramène se coucher et il y a des formes familiales de somnambulisme.
Ah oui. D'accord. Docteur Lecendré, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission consacrée au sommeil des plus jeunes. Et juste après, on va passer aux ados, à ceux qui ont le plus de problèmes de sommeil, je crois. Alors comment les aider à mieux dormir sans que ce soit la crise, sans aller à la confrontation avec ces jeunes adultes en devenir ? On va tout vous expliquer. Plein de conseils dans quelques minutes. C'est dans Sans Rendez-vous et c'est sur Europe 1.
Sans Rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être est de retour très vite. Juste le temps d'écouter un peu de musique. C'est Julien Clerc avec son dernier titre. Ça s'appelle Mon Refuge.
Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur. Emmène-moi en plein hiver, dans le port de Honfleur. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi voir le Japon, ses cerisiers en fleurs. Emmène-moi écoutez les sirènes, envoûtez les pêcheurs. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Emmène-moi dans des forêts sombres où nous nous perdrons. Emmène-moi voir les pyramides, saluer les pharaons. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche, tous les jours de l'année. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Faut dire qu'avant toi, jamais je n'ai eu de maison. Oui, tu seras mon refuge où que nous allions. Allez, emmène-moi, emmène-moi.
C'était le chanteur Julien Clerc sur Europe 1 avec son dernier titre, Mon Refuge.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Il nous accompagne cet après-midi, c'est le docteur Michel Lecendreux. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre et coordonnateur du Centre pédiatrique des pathologies du sommeil à l'hôpital Robert Debré à Paris. Alors on va passer, docteur, aux adolescents à présent. Il faut savoir que mal dormir chez eux, c'est presque normal, entre guillemets. Ils sont par nature désynchronisés. Expliquez-nous.
Oui, alors c'est très important de savoir que la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Chez les adolescents, la mélatonine va diminuer la production pour libérer les hormones sexuelles et en particulier permettre le développement de la puberté. Donc attention, votre adolescent, il ne va pas se coucher comme votre enfant prépubère. Il va falloir respecter son rythme de sommeil et l'accompagner sans toutefois le laisser se coucher trop tard parce que sa propension à lui, ça va être de se coucher de plus en plus tard.
D'accord. Et filles-garçons, c'est un peu différent, je crois.
Les filles, un peu plus avant que les garçons, puisqu'elles sont, il y a une puberté qui est plus précoce que chez les garçons. Mais bon, les deux vont finir par se rejoindre.
Sauf que la période de l'adolescence, elle va débuter vers 10, 11 ans, puis aller jusqu'à 15, 16 ans. Et du coup, comment est-ce que le sommeil est le même à 11 ans et 13 ans, par exemple ?
Il n'est pas le même à 11 ans et 13 ans. 11 ans, c'est la préadolescence. 16 ans, c'est vraiment l'adolescence. Et il y a des conditions, des comportements qui vont se mettre en place, qui vont être ce qu'on appelle la résistance au sommeil chez beaucoup d'adolescents, qui vont vouloir préserver leur temps de liberté le soir et puis repousser leur sommeil de plus en plus.
Donc à 11 ans, on le couche à quelle heure ? À 15 ans, enfin on le couche, il se couche tout seul à cet âge-là.
À 11 ans, on va essayer de le coucher vers 9h, 9h30. À 13 ans, on va admettre qu'il peut aller à 22h. Il faut négocier avec l'adolescent et en faire un partenaire et pas lui infliger des horaires qu'il ne peut pas tenir.
Et justement, comment est-ce qu'on sait quel est le meilleur horaire pour coucher un ado ou un préadolescent ?
Alors, il y a un petit repère comme ça, c'est 30 minutes. Il faut regarder si la latence d'endormissement, si l'adolescent est capable de s'endormir en 30 minutes.
C'est-à-dire que si on le couche à 21h mais qu'il ne s'endort pas avant 22h30, c'est qu'il y a un souci.
Ça ne sert à rien. Ouais. Voilà. C'est comme si vous allez à table et vous attendez 2h votre repas. Ce n'est pas une bonne chose. Là, s'il faut aller dans le lit, vous devez dormir au moins 30 minutes après l'endormissement.
Et un adolescent qui dort mal ou un enfant qui dort mal, est-ce que c'est un enfant qui est un peu plus hyperactif ou est-ce qu'un enfant hyperactif va un peu moins dormir ? Comment est-ce qu'on fait le lien ?
Oui, un enfant hyperactif, c'est un enfant qui... C'est 3% de la population des enfants. Il y a une association sur les enfants hyperactifs, hyper super, qui est très importante parce que ces enfants sont tout le temps en éveil. Ils ont une capacité à rester en éveil qui est forte. Et donc, ils vont attraper tous les stimuli qui sont autour d'eux et avoir beaucoup de mal à enclencher leur sommeil.
Oui, donc il faut être très, très attentif au sommeil de ces enfants-là aussi, particulièrement.
En particulier, et aux enfants qu'on dit en privation de sommeil.
Les écrans, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le pire ennemi de notre sommeil à tous, mais pour les adolescents particulièrement, je crois.
Pour les adolescents particulièrement, les écrans, c'est quelque chose qu'ils vont utiliser de façon tellement naturelle. Les réseaux sociaux, ils aiment rester ensemble.
Ils se détendent, ça leur fait du bien, et
voilà,
c'est normal
c'est
de discuter ensemble.
Et puis
ensemble,
le dernier à lâcher l'écran, souvent, c'est celui qui est le plus mauvais élève du groupe. Donc, ils se challengent les uns les autres, et c'est au détriment de leur sommeil.
Et justement, est-ce que, quand on parle de lumière, est-ce que la lumière à la maison a une importance et qu'il faut, le soir, commencer à baisser la luminosité ou ça n'a pas trop d'impact ?
Moi, Jimmy, je vous ai écouté, et vous avez dit qu'il fallait dormir dans le noir, et je suis complètement d'accord. On n'est pas pas obligé d'aller au fin fond du Brésil, mais il faut diminuer la lumière au moins une heure avant le coucher.
On tamise alors après le repas. Quoi,
on tamise. Il y a d'ailleurs des dispositifs maintenant qui permettent de simuler du coucher de soleil. C'est très beau. Ou de faire de la cohérence cardiaque, de la relaxation. Tout ça, c'est favorable.
Vous avez des astuces pour bien utiliser les écrans? Est-ce qu'il faut, je sais pas, éloigner l'écran de sa rétine? Enfin, quelques conseils pour au moins ça soit moins pire, on va dire.
Il faut éloigner la rétine de l'écran le plus possible, sinon éviter les lumières bleues, plutôt des lumières rouges.
Il y a des filtres qu'on peut mettre maintenant sur les écrans, c'est bien.
On peut mettre des fils sur les écrans, tout ça c'est positif. Il faut éviter trop de luminosité, il faut baisser l'intensité de l'écran.
L'adolescence est parfois le début, non pas des bêtises, mais des premières consommations, notamment du café, du tabac ou même du cannabis. Est-ce que ça peut avoir un impact sur leur sommeil?
Alors absolument, tout ça sont des
C'est quoi le pire dans tout ce qu'il a cité, Jimmy?
Le pire, c'est des associés.
Ah, les trois ensemble, là, c'est la cata.
Ça, c'est pire. Voilà.
Mais sinon, bon, le café, d'accord.
Le café, on sait que c'est un peu un stimulant et c'est comme ça que c'est utilisé. Mais les autres, on a tendance à les utiliser pour s'endormir.
Mais le cannabis, ça devrait les faire dormir un peu, non?
C'est un effet hypnotique.
Je dis pas que c'est bien du tout, mais pas du tout.
Eh ben, c'est bien et c'est pas bien parce que ça va déstructurer le sommeil, ça va empêcher les rêves et surtout quand on va vouloir se sevrer du cannabis, on va avoir des rebonds d'insomnie qui vont être tellement désagréables qu'on va continuer le cannabis.
Donc vraiment pas du tout à conseiller.
L'adolescence rime souvent aussi avec des périodes de révision et parfois ils veulent réviser tard, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin.
Il y en a qui aiment travailler la nuit en plus, ça leur plaît. Dis-moi, je peux travailler que la nuit.
Ils adorent. Est-ce que c'est une bonne chose? La nuit, la nuit non, le soir peut-être. Il faut qu'ils aient la capacité de dormir pour consolider leurs apprentissages. Donc si vous voulez apprendre des choses nouvelles, dormez après. Si vous voulez consolider votre mémoire à long terme, dormez encore. Voilà, donc même si une sieste courte, vous allez valoriser. Et surtout, essayez de coller aux recommandations de sommeil pour les adolescents, 8 à 10 heures. Regardez combien de temps vous dormez et essayez de vous en rapprocher.
Donc c'est pas finalement 8 à 10 heures, c'est pas non plus énorme. Un adolescent, il n'a pas besoin de temps.
Il n'est pas loin de nous en fait.
C'est pas énorme, mais regardez combien dorment. On sait que 85% ne dorment pas ces heures-là. C'est la tranche d'âge la plus privée de sommeil dans notre population.
Donc on en fait des partenaires, on crie pas trop, mais on essaye d'avoir des règles quand même.
On essaye de pas trop crier quand même.
Et on reste derrière eux malgré tout, faut pas leur penser.
On
lâche pas l'affaire. Il faut du contrôle parental, il faut les aider et en parler.
Merci beaucoup docteur Le Sandreux de nous avoir accompagnés cet après-midi. Alors pour ceux qui voudraient en savoir plus, je signale, il y a votre livre, son titre c'est « 100 questions sur le sommeil » aux éditions Solar. Merci encore docteur.
Merci beaucoup.
Dans un instant, notre chronique des bobos du quotidien. Nous ferons un focus sur la cuisine naturelle pour bébés. C'est le titre du livre d'Angèle Ferremag qui sera justement en ligne avec nous. Elle est cuisinière et naturopathe et nous donnera les clés pour réussir la diversification alimentaire avec des plats sains et gourmands. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Alors à présent, on va passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur la cuisine naturelle pour bébés. C'est le titre de votre livre paru chez Marabout. Angèle Ferremag, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes cuisinière et naturopathe, vous étiez déjà venue sur ce plateau pour nous parler des zones bleues, si je ne me trompe pas. Alors jusqu'à ce que vous deveniez maman, c'est plutôt pour les adultes que vous faisiez chauffer les casseroles, mais avec l'arrivée de vos deux filles, on imagine que pour vous, ça n'a pas dû être compliqué non, de débuter la diversification alimentaire, si ?
Mais si, au contraire, en fait, c'est assez difficile de supprimer toute la créativité, tous les accords, toutes les textures, la présentation. En fait, pour les bébés, on fait simplissime. Il n'y a aucun effort à faire. Il faut juste de la qualité, un mode de cuisson respectueux, parce que leur petit palais est tout neuf, donc les goûts ressentis sont bien plus forts que pour nous. Donc, il faut apprendre à prendre son temps et à mettre son ego de côté.
Mais justement, Angèle, parce que moi, je suis un très mauvais cuisinier. Je pense que je pourrais rater une omelette.
Sa femme en a parlé, je crois, qu'il est vraiment pas bon.
Mais pour les enfants...
qui fait les purées, d'ailleurs, les enfants sont contents.
Mais oui, mais justement, parce que la gastronomie chez les petits, c'est de la non-gastronomie. On va droit à l'essentiel, pas de chichi, des produits simples.
Exactement, c'est exactement ça. En fait, le produit est vraiment tellement important pour les enfants. C'est vraiment lui le roi. On va vraiment le mettre en valeur. Et aucun problème, Jimmy. Pas besoin, pas de talent, rien du tout pour cuisiner pour les bébés.
Ouais,
vraiment
même
juste
Jimmy,
bien faire
arriver.
Nos courses.
Ouais. Et avec votre livre qui est très joli d'ailleurs, je le conseille vraiment. Vous reprenez complètement les bases de l'alimentation de bébé, la diversification. Donc bon, pour ceux qui ont eu des enfants, ils savent à peu près, ça commence vers 4 mois en général. Premier conseil que vous donnez dans votre bouquin, c'est du bio et rien que du bio. Pourquoi ?
Bah oui, c'est vraiment très important. Alors du bio, même s'il n'y a pas le label, si on sait que ça a été cuisiné sans aucun pesticide, c'est vraiment à valoriser. Parce qu'en fait, on sait que manger bio, ça nous garantit un taux de pesticides quasi nul.
Pour les bébés, c'est encore plus important, ouais.
Pour les bébés, exactement, c'est encore plus important. On sait aujourd'hui que les pesticides en grande quantité peuvent avoir un impact, peuvent notamment être des perturbateurs endocriniens, et qui peuvent aussi impacter le biotope. Donc imaginez l'importance de préserver cette toute nouvelle flore intestinale qui peut venir à la santé globale. Donc pour les bébés, c'est vraiment important de valoriser, enfin de ne pas leur apporter du chimique en plus.
Et justement, est-ce que cette diversification, elle se fait en fonction des fruits et des légumes de saison, ou si jamais on a décidé qu'il allait manger, je ne sais pas, de la tomate, alors que ce n'est pas la saison de la tomate, on lâche l'affaire?
Mais ça, Jimmy, c'est une super question parce que.
J'ai vu,
très souvent,
il connaît rien en cuisine, mais quand même, il pose des bonnes questions.
En fait, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a toujours. Il faut commencer par la patate douce ou la carotte. En fait, on a l'impression qu'il y a des obligations comme ça. Et c'est vrai qu'il y a certains parents qui se retrouvent à acheter des légumes racines en été, alors que pour respecter un petit peu les grandes règles, alors qu'en fait, respecter les saisons pour les bébés aussi, c'est très important. Déjà, parce que pour moi, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de transmettre dans ce livre, la transmission justement, l'apprentissage, ça commence de le rapport à la nourriture, ça commence tôt. Et donc c'est tellement agréable de retrouver le plaisir d'arriver dans une saison, cette impatience de redécouvrir les aliments lorsqu'ils sont les meilleurs, en fait les vrais goûts, avoir hâte, se réjouir d'entrer dans chaque saison.
Angèle,
comme,
pour nous
comme
donner une petite idée, on a peu de temps, je suis désolée, une petite recette.
Pardon, j'ai la parlotte.
Pas de problème, une petite recette peut-être pour nous donner l'eau à la bouche, enfin en tout cas validée par vos filles, dites-nous.
Je vous donne une recette qui est hyper facile et qu'elles adorent et qui est bon en plus pour les parents aussi, parce que ceux
parfait.
Qui n'ont pas d'enfants en bas âge, sinon ils s'ennuient à nous écouter. Alors c'est les onigiri, vous connaissez peut-être.
Oui.
Ces espèces de petits triangles de riz dont les enfants japonais raffolent, qu'on retrouve souvent dans les bento au Japon. Et alors en fait, c'est très simple. On fait cuire du riz. Oui, parce que le livre est complètement avec des aliments français, sans sucre, sans sel. Donc j'ai essayé d'adapter avec des produits français. Donc on prend du riz de Camargue. On peut le faire un peu trop cuire volontairement. On va le mélanger avec du vinaigre de cidre bio, un petit peu de jus de pomme. Et en fait, on va le façonner dans sa main. Donc on va le mettre quand il est froid, bien sûr, dans le creux de sa main. On va mettre à l'intérieur une petite farce, donc soit avec un mélange de thon et de mayonnaise, soit avec un peu d'avocat et de courgettes par exemple. Et ensuite on va remettre un petit peu de riz pour façonner de l'autre côté. On va faire un petit triangle et on va l'enrouler d'algues. Les algues, évidemment, bretonnes. Si on peut le faire avec les enfants en plus.
Jimmy, vous avez l'eau à la bouche, je le vois. Je crois qu'il va faire ça ce soir. Dès ce soir, Jimmy, il est prêt. Merci beaucoup, Angèle, pour ce petit interview de gourmand. Je rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, le titre de votre très joli livre, Ma cuisine naturelle pour bébé chez Marabout. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez, car c'est la chronique sexo de Catherine Blanc juste après. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La chronique sexo de Catherine Blanc arrive dans un instant, juste après un peu de musique. On vous propose un morceau de la chanteuse Rihanna, ça s'appelle SOS.
Every moment gone, you know I miss you. I'm the question, and you're of course the answer. Just hold me close, boy, 'cause I'm your tiny dancer. You make me shake and I'm never mistaken, but I can't control myself. Got me calling out for help. Ask me, someone help me. It's not healthy for me to feel this way. Oh, you are making this hard. I can't take it, see it, don't feel.
Oh, you are.
to when I see you get so hot. My common sense is out the door, can't seem to find the lock. Take on me, you know it's sad you feel it right. Take me on, I could just tie up in your arms tonight. I'm out with you, you got me head over heels. Boy, you keep me hanging on the way you make me feel. S.O.S. please. Feeling open, and boy, your love's enough with words unspoken. I said, boy, I'm telling you, you got me open. I don't know what to do, it's true, I'm going crazy over you. I'm begging, S.O.S., please, somebody help me.
It's not healthy for me to feel this way. Oh, you are making, oh, are you making this
way. C'était la chanteuse Rihanna sur Europe 1 avec son titre S.O.S.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h avec le docteur Jimmy Mohamed. Celle qui nous rejoint à présent en studio, c'est Catherine Blanc, vous le savez, comme tous les jours à la fin de cette émission. Catherine Blanc est sexologue et psychanalyste à Paris. Et aujourd'hui, Catherine, on va tenter de répondre à la question d'Isabelle. Je vous la lis. Mon père, qui a 55 ans, souffre beaucoup car ma mère est en pleine ménopause et n'a plus de libido. Je le sais, car il lui fait souvent des remarques quand on fait des repas de famille, comme si c'était des blagues. Je vous avoue que c'est un peu gênant pour tout le monde, même si on a toujours parler librement de sexualité dans la famille. Que devrais-je lui répondre pour lui faire comprendre que ça ne nous regarde pas, Catherine? Pour commencer, pourquoi certaines personnes sont plus à l'aise comme ça pour parler, pour dévoiler leur vie intime devant les autres? Alors certes, ils disent que c'est une famille où on parle ouvertement de ces sujets-là, mais là, ça peut mettre mal à l'aise tout le monde quand même.
Oui, alors d'abord, il y a des gens qui mettent la sexualité du côté de l'interdit absolu, donc ils n'en parlent jamais. Je parle de la sexualité en général. Parler de sa sexualité, c'est autre chose. Déjà, entre adultes, c'est autre chose que d'étaler son...
C'est un peu exhibitionniste, hein, d'une certaine façon,
c'est
non?
C'est un côté exhibitionniste. Après, il y a des gens, enfin, encore une fois, il y a des époques où on est plus détendu, des époques où on est plus réticent. Après, il y a des cultures familiales. Après, il y a des cultures religieuses. Liberté à chacun, évidemment, d'avoir la liberté de son silence, de ses pudeurs ou de ses impudeurs, à condition de respecter les pudeurs et impudeurs de l'autre. Et c'est là, évidemment, que la liberté de ceux qui parlent doit trouver sa limite, notamment quand il y a des enfants présents.
Il faut quand même être sacrément détendu pour aborder ça lors d'un
repas.
Alors,
on parle d'enfants qui sont adultes, hein, quand même, précisons.
Malgré tout, il faut être détendu. Mais néanmoins, est-ce qu'il ne cherche pas à faire passer un message? Il le dit en rigolant devant tout le monde, alors que peut-être il n'ose pas lui dire lorsqu'il est avec elle.
C'est pas très sympa pour la maman, quand même, tout ça.
Ouais. Oui, donc, mais peut-être que le but, ce n'est pas l'humiliation, c'est peut-être de faire passer un message, mais la communication ne passe pas.
En tout cas, on ne dit pas, là, dans ce cas de figure, on ne peut pas dire qu'il est détendu, parce que je pense qu'au contraire, il est très tendu. Et c'est bien le problème de cet homme dans sa relation avec sa femme, sans doute une difficulté de lui faire face en général, et du coup d'avoir besoin d'appui extérieur, d'avoir besoin du regard de l'extérieur pour qu'elle sente qu'il y a une difficulté ou qu'elle ne puisse pas se défendre parce qu'elle, peut-être, protégera ses enfants et que du coup, elle ne rentrera pas dans ce débat. Donc cet homme essaie peut-être, en effet, d'évoquer un sujet qu'il n'arrive pas à aborder en tête-à-tête parce que, évidemment, comment dire à l'autre qui n'a pas de désir qu'il est en tort de ne pas avoir de désir et que la priorité de son désir passerait devant l'impossible du désir de l'autre. C'est ça toute la difficulté. Du coup, les enfants sont pris en otage.
Parce que je vais vous dire, la sexualité, on est d'accord, que les enfants soient adultes ou que les enfants soient enfants, la sexualité des parents ne les regarde pas.
Ça ne les regarde pas. Encore une fois, ce n'est pas une histoire de pudemonderie. C'est que les enfants ont besoin de ne pas être dans la chambre à coucher. Ça ne les regarde pas plus d'entendre comment se passe la sexualité des parents qu'ils ne seraient légitimes d'être invités à être assis à côté du lit pendant qu'ils sont en train de faire l'amour. Or, on pourrait dire qu'il y a une différence entre être dans la chambre à coucher et écouter le discours. Et pourtant, il n'y en a pas. Parce que fantasmatiquement, quand vous entendez quelqu'un parler, vous visualisez les choses. Donc, c'est comme si on vous faisait rentrer dans la chambre à coucher. Alors, évidemment, ils sont adultes. Ce n'est pas la même chose que s'ils étaient tout jeunes enfants et qu'ils étaient en en construction. Mais évidemment, être là, avec notamment, c'est une femme qui nous parle, donc avec sa féminité, c'est possible peut-être, et de sentir qu'elle, elle est en compétence de faire l'amour avec son partenaire, le cas échéant, quand sa mère n'est plus en compétence, ça la met dans une position aussi de se sentir supérieure à sa mère et coupable potentiellement de l'être. Donc à ce titre, ça n'est pas bien.
C'est pas sain.
Ça n'est pas sain, ça n'est pas bien de mettre les enfants dans une situation comme cela où elle devrait ou défendre sa mère, ou à terme faire comme sa mère, ou au contraire abonder dans le sens de son père. Enfin, c'est très compliqué et ça vient nuire à sa propre sexualité. Donc je crois que cet homme, d'ailleurs elle dit « mon père souffre beaucoup », là aussi c'est une erreur. Cet homme souffre de ne pas pouvoir avant tout s'exprimer et partager avec sa femme, plus qu'il ne souffre sexuellement. On ne souffre pas sexuellement, on est dans un désir qui est frustré et on a tous à réfléchir la frustration.
Justement, est-ce que c'est aux enfants de dire « écoute, papa, tu vas trop loin », ce genre de blague est pénible si jamais la maman n'ose pas le dire. Est-ce que les enfants doivent verbaliser cette gêne?
Oui, surtout
si
qu'ils sont adultes. Bah oui. Surtout qu'ils sont adultes en disant « écoute, papa, tu nous barbes ».
Tu lui permets, après tout, ils peuvent se permettre aussi. Hein,
exactement. Ouais. « Papa, tu nous barbes, ça ne nous intéresse pas. Tu es mignon de ne pas exposer ta sexualité et ta sexualité avec maman. Maman, je dis à papa que ça ne nous intéresse pas. » Je crois qu'il faut pouvoir le dire. C'est « on ne peut rien faire ». Être là, public de quelque chose sur lequel on ne peut rien, n'a aucun intérêt. Je crois, papa, que maman et toi, vous avez à parler et peut-être aller parler avec un tiers. Mais certainement pas nous.
Mais elle lui dit, vous pensez le moment où il refera une blague dans un repas, ou est-ce que ça vaut le coup aussi de lui parler seul à seul, lui dire, écoute papa, ça nous met mal à l'aise à chaque fois que tu fais ça, enfin, qu'est-ce que vous lui conseillez?
Moi je crois qu'il ne faut pas attendre la prochaine blague puisque c'est une blague de trop de toute façon, donc je crois qu'il faut pouvoir, si on s'en sent le courage, si, parce qu'évidemment les enfants se sentent en porte-à-faux, ils se sentent en difficulté, ils ne veulent pas étiqueter les parents, les pointer.
C'est pas évident de dire ça à son père aussi.
Non,
hein,
ça n'est pas évident, donc je crois que quand même si on le peut, on le dit en dehors, en disant « papa, je te prierai à partir de maintenant d'arrêter parce que ça me fait du mal, ça me blesse ». Sinon, on attend la prochaine blague en disant « bon, ça commence à être très très lourd, pourquoi vous n'iriez pas voir quelqu'un ?»
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Est-ce que vous avez aimé le jeu de la dame sur Netflix?
J'ai adoré.
Vous avez adoré?
J'ai adoré.
Ça nous a donné une idée avec Stéphane, non pas d'apprendre les échecs parce qu'on est trop nuls, mais de vous parler de ces femmes stratèges de l'histoire.
On va commencer avec Aliénor d'Aquitaine. Vous savez, elle a épousé deux rois, un roi de France et puis après son ennemi, le roi d'Angleterre.
Bien joué.
Catherine II de Russie, despote éclairée. Et puis vous avez choisi quelle grande stratège?
Une grande stratège de l'histoire contemporaine, elle s'appelle Zaya Dehar. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Elle est passée de Ribéry à Benzema et elle a fini dans le cinéma d'auteur.
C'est une grande horizontale.
C'est une grande horizontale à sa manière, Stéphane.
Elle a fait carrière allongée.
Elle a fait carrière et on verra que c'est un sacré bout de femme.
Bah oui, on aime les femmes intelligentes, hein, bien sûr. Donc bien sûr, si vous voulez écouter encore deux femmes, non, des hommes intelligents, surtout, restez sur Europe 1.